Les débats du jour, Loïc Bussière.
Lui, président, aura finalement marqué l'histoire de la Ve République. En annonçant sa décision de ne pas se représenter au mois de mai prochain, François Hollande devient le premier chef de l'État français en exercice à ne pas briguer un autre mandat. Celui qui se voulait président normal devient de fait un sortant atypique, fixant lui-même les modalités de son départ. Une sortie synonyme d'échec pour certains, échec d'un homme ou échec politique. C'est la question que l'on se pose en compagnie de nos invités.
Aujourd'hui, je suis conscient des risques que ferait courir une démarche, la mienne, qui ne rassemblerait pas largement autour d'elle. Aussi, j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat.
Voilà, ces mots, c'était il y a 24 heures, un peu plus de 24 heures maintenant, ces mots qui n'en finissent pas d'être commentés aujourd'hui et que l'on va commenter ce soir encore avec Élie Fougier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et chercheur associé à l'IRIS. Avec nous également en ligne Rémi Lefebvre. Bonsoir Rémi Lefebvre.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université de Lille 2 et chercheur au CERAPS, c'est le Centre d'études et de recherches administratives, politiques et sociales. C'est quelques secondes que l'on vient d'entendre, messieurs, quelques secondes qui concluent 10 minutes de discours et qui deviennent aujourd'hui une page d'histoire de la Ve République. Je le disais à l'instant, jamais un président en capacité de se représenter n'avait renoncé à briguer un second mandat. C'est comme ça qu'il faut lire cette allocution de François Hollande et Élie Fougier sous l'angle historique.
Ah, c'est historique, oui, vous l'avez dit, c'est la première fois qu'un président qui était en mesure de le faire, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans la Ve République, avec des présidents démissionnaires ou des présidents qui ont décédé, de renoncer de lui-même, alors sous différentes influences, on y reviendra, à postuler pour un second mandat. Donc ça, c'est absolument inédit. Alors ce qui était assez intéressant de voir durant la Ve République, c'est qu'on avait eu jusqu'à présent des présidents impopulaires, avec Giscard et avec Sarkozy, qui se sont représentés, qui ont été battus, et c'était assez intéressant. Ils n'ont jamais pu revenir dans le jeu, ils n'ont jamais pu se représenter après avoir été battus. Giscard a essayé, il n'y est pas parvenu, et même Nicolas Sarkozy n'y est pas parvenu, on l'a vu il y a quelques semaines. Donc là, on est à un stade supérieur, c'est-à-dire c'est le président impopulaire, encore plus impopulaire, et qui n'est pas en mesure de se représenter, parce que s'il a pris cette décision, c'est qu'effectivement, il y avait de très fortes présomptions d'échecs, y compris au sein dans le cadre de la primaire de son propre parti.
Rémi Lefebvre, c'est avant tout cette dimension historique que vous retenez, vous aussi, de cette allocution de François Hollande ?
C'est une lecture qu'on peut avoir. Moi, je dirais que, au-delà du cas de François Hollande, ce renoncement tout à fait inédit traduit une crise de régime, un régime institutionnel qui est complètement à bout de souffle, puisque, au-delà du cas de Hollande, on voit que les présidents de la République sont de plus en plus impopulaires, de plus en plus impuissants, un système politique de plus en plus centré sur l'élection présidentielle et qui produit des présidents qui systématiquement déçoivent. Et donc, pour moi, c'est aussi emblématique de ça, c'est-à-dire d'un processus de délégitimation très profond du système politique institutionnel dont le désaveu de François Hollande est le dernier symptôme, mais il y en aura d'autres. Je pense que c'est ça qu'il faut donner la mesure de l'événement de cette manière-là, à mon sens.
Élie Fougier, crise de régime plus que sens de l'histoire ?
Alors, je ne sais pas si il y a un rejet de la classe politique uniquement en fonction du système institutionnel. Alors, il y a effectivement cette dimension d'impuissance, mais est-ce que cette impuissance relative des politiques, des dirigeants aujourd'hui liés à la toute-puissance des marchés ou à l'influence de l'Union européenne, ou tout simplement au fait que les hommes politiques qui arrivent au pouvoir, notamment avec l'idée de rompre avec les pratiques précédentes, avec l'idée de mener à bien des changements, des réformes, quelles qu'elles soient, contre la finance ou pour la finance, selon l'orientation, ils ne vont pas jusqu'au bout. Et il y a toujours un tournant qui arrive à un moment donné. Ce tournant est arrivé quelques semaines après la victoire de Jacques Chirac en 95, il est arrivé assez rapidement lorsque Jospin était au pouvoir, où il expliquait que l'État ne pouvait pas tout. Il est arrivé aussi rapidement avec Nicolas Sarkozy parce que la crise s'est produite. Et puis il y a eu ce fameux tournant social-libéral du côté François Hollande. Est-ce que c'est lié uniquement au fonctionnement du régime politique, à la présidentialisation de ce régime, ou lié au fait que c'est cette génération-là n'a pas tenu ses promesses et on voit aujourd'hui que cette génération est renvoyée à sa retraite, que ce soit Nicolas Sarkozy, Alain Juppé ou François Hollande. C'est une interrogation. Alors ça ne veut pas dire que les hommes politiques qui vont arriver au pouvoir, peut-être François Fillon au mois de mai, va tenir ses promesses, mais en tout cas, il y a cette attente-là qui peut être d'autant plus déçu si il ne va pas jusqu'au bout de cette volonté de changer les choses. Et après, on peut se demander ce qui peut se passer.
Alors, ce qui peut se passer, justement, on peut se demander, vous le dites, on parle beaucoup, en revanche, aujourd'hui, de lucidité pour qualifier justement la décision du futur ex-chef de l'État, comme il faut l'appeler. Maintenant, est-ce que cette notion de lucidité, elle ne s'oppose pas à celle de la combativité qui est finalement le moteur de la vie politique ?
D'un certain point de vue, effectivement, le message subliminal envoyé au pays n'est pas très bon. Alors effectivement, il se protège sans doute d'une forme d'humiliation, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais je dirais, c'est le sentiment général que l'on a un peu dans la société française, cette idée de renoncement face à l'adversité, face à un certain nombre de phénomènes que l'on ne peut maîtriser, du terrorisme jusqu'à à Trump ou à d'autres types de phénomènes. Et je dirais, le message, même si il est lucide politiquement, n'est peut-être pas d'un point de vue subliminal, n'est peut-être pas le meilleur à envoyer à une société qui est déjà, qui doute de ses capacités et qui a ce sentiment d'impuissance.
Rémi Lefebvre, votre réaction sur justement cette notion de lucidité, est-ce que renoncer, c'est d'une certaine manière faire un aveu d'échec, renoncer, c'est faillir ?
Non, je suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que c'est on peut faire beaucoup de critiques sur la politique de François Hollande et du point de vue de la gauche, elles sont justes, mais c'est assez honorable la décision de François Hollande parce que, en définitive, il a pris acte du désamour qui le lie au fond, qui aujourd'hui l'oppose aux Français. Il prend acte aussi, eh bien, qu'il n'est pas en situation de défendre la gauche. On peut pas reprocher aux hommes politiques de rester toujours dans le jeu, de ne pas tenir compte de l'opinion, de ne pas tenir compte de la désaffection populaire et d'en tirer les conclusions, et puis considérer qu'il a manqué de courage. Je pense que, au fond, moi je l'ai trouvé touchant, François Hollande, hier, et il donne aussi l'image de quelqu'un qui est capable de ne pas s'acharner, de ne pas être masochiste aussi, parce que concrètement il courait vraiment un risque considérable. Donc je trouve que moi ça c'est plutôt à mettre au crédit du personnel politique cette décision. On aimerait un peu plus de décisions de son genre, être capable aussi de... Un président de la République n'est pas voué forcément à se représenter mécaniquement quand la situation exige qu'il se retire. Je trouve légitime qu'il le fasse et j'ai été plutôt touché en tant que citoyen aussi par cette décision.
Élie Fougier, c'est la situation justement qui a poussé François Hollande, on peut le penser, hein, à annoncer justement son intention de ne pas se représenter. Pourtant, on le décrit régulièrement comme quelqu'un d'extrêmement combatif, comme un animal politique stricto sensu.
Bah, je pense qu'il voulait se présenter.
On peut rappeler que à l'époque des primaires, justement, avant l'élection de 2012, il était crédité de 3% d'intention.
Oui, monsieur 3%.
Voilà.
Je pense qu'il voulait se présenter. Avoir effectivement son état... émotionnel hier, effectivement, on n'avait pas vu un François Hollande aussi ému depuis la soirée du 13 novembre 2015. Donc, et son entourage parlait à la fois d'un soulagement et d'une grande émotion. Donc, effectivement, ça n'a pas été une affaire aussi simple que ça. Et comme le disait Monsieur Lefebvre, il est évident qu'il a été obligé de renoncer, notamment. Alors, bien évidemment, il y a eu l'affaire de l'ouvrage d'entretien avec ces deux journalistes, mais qui a effectivement contribué à renforcer un petit peu ce rejet, ce Hollande bashing, y compris dans son entourage proche. Mais dans la période la plus récente, je pense qu'il y a différentes évolutions qui l'ont amené à considérer qu'il pouvait perdre, y compris au sein de la primaire de son propre parti, au sein de la belle Alliance populaire. Ces deux exemples sont effectivement la candidature. Alors c'est peut-être un peu anecdotique, mais la candidature de Sylvia Pinel au nom du Parti des radicaux de gauche, je vous rappelle que François Hollande voulait plus ou moins sortir vainqueur de cette primaire pour rassembler à gauche. Et là, le parti le plus proche du Parti socialiste présente un candidat, ce qui est assez rare, hein, il faut remonter à 2002 ou à 81 pour avoir un candidat du Parti radical de gauche, sans passer par la primaire. Donc effectivement, l'idée de rassemblement était largement remise en cause. C'est la raison pour laquelle il a rencontré Jean-Michel Bailey il y a assez peu de temps. Et puis surtout, ce qui s'est passé à droite, à savoir cette élimination dès le premier tour de Nicolas Sarkozy, je pense que ça, ça l'a marqué. Parce que c'était son fameux scénario du passage par un trou de souris. L'idée qu'il soit face à Nicolas Sarkozy, ça pourrait éventuellement lui servir de tremplin pour aller au deuxième tour. Donc ça, déjà, Nicolas Sarkozy est éliminé. Et puis surtout, la façon dont ça a été fait. C'est-à-dire l'ancien président de la République qui revient dans le jeu et qui est éliminé dès le premier tour, notamment par les électeurs de gauche qui ont voté massivement lors de cette primaire. Donc il a pu se dire, effectivement, et la remarque de Montebourg a pas mal irrité les hollandistes, en appelant aux électeurs de droite à venir voter massivement les 22 et 29 janvier prochains, effectivement, il a dû se dire, il y aura massivement des électeurs de droite, il y aura les électeurs pro-Mélenchon, des électeurs communistes, qui vont faire de cette primaire un référendum anti-Hollande. Donc la plus grande humiliation aurait été d'être battu dès le premier tour de la primaire de son propre parti. C'est déjà humiliant pour un président de passer par la case primaire de son propre parti. Ça, c'est quelque chose d'inédit, a fortiori d'être battu dans cette primaire.
Rémi Lefebvre, c'est plus justement cet éclatement de la gauche qui a poussé à la décision de François Hollande, à votre sens, ou justement ce scénario que François Hollande n'avait pas forcément prévu, ce scénario d'un Nicolas Sarkozy finalement écarté de la course?
Bah écoutez, c'est tout ça à la fois. L'état de la gauche lui interdisait d'être au deuxième tour, mais moi je pense que la primaire, la perspective de la primaire a joué un rôle très très important. Il s'est piégé lui-même, François Hollande. Cette primaire, au départ, elle était perçue comme facultative par le Parti Socialiste. Il y a eu d'énormes pressions qui ont été faites sur lui pour qu'elle ait lieu. Finalement, François Hollande, il faut rappeler la chronologie, en juin dernier, a accepté cette primaire un peu forcée par Jean-Christophe Cambadélis, qui voyait la seule solution pour le relégitimer. Donc il s'est engagé pour la primaire à ce moment-là. Et puis, à mesure que la primaire de droite avançait, il s'est rendu compte que la primaire allait le tuer. Donc on a vu dans les derniers jours, au début de cette semaine, les Hollandais commencer à installer l'idée dans l'opinion publique qu'il ne devait pas y avoir de primaire, que c'était pas possible qu'un candidat en exercice soit soumis à la primaire. J'ai l'impression qu'ils ont envoyé en ballon d'essai un petit peu ce test dans l'opinion. Et on a vu tout de suite que la réaction, c'était que c'était pas possible qu'il n'y ait pas de primaire. C'était pas possible que le président de la République s'impose comme ça, de droit divin comme candidat. Et à ce moment-là, je pense que François Hollande s'est dit, mais cette primaire est trop risquée, cette primaire va me détruire, va m'humilier. Je pense que ça a beaucoup, beaucoup joué, hein, la perspective de la primaire, beaucoup plus que finalement la division de la gauche, parce que je pense que François Hollande savait bien qu'il allait perdre l'élection présidentielle. Mais ce qu'il voulait, c'était être candidat pour défendre son bilan. Mais pour être candidat, il fallait passer par la primaire, et ça, être humilié en étant battu à la primaire, c'était une perspective qu'il ne pouvait pas accepter. Et je pense que c'est cette logique-là qui a prévalu dans son choix.
Eddy Fougier, quand on entend ce que vient l'analyse, en tout cas de Rémi Lefebvre, on se dit que finalement, l'idée d'un président qui dicte lui-même de manière très verticale son calendrier, Rémi Lefebvre parlait de crise de régime tout à l'heure, elle est définitivement enterrée, cette idée-là ?
Je ne pense pas. La difficulté pour François Hollande, effectivement, c'est que ce sont plutôt les événements extérieurs qui ont dicté un petit peu sa conduite. Cela a été dit, effectivement.
Le procès en autorité, justement, qui a été fait.
L'idée de primaire, il n'en voulait pas au départ. Il l'a accepté à un moment donné, ça a été dit, en considérant que c'était peut-être un bon moyen de rassembler autour de lui les différentes composantes de la gauche. N'oublions pas qu'au printemps dernier, il y a eu une tentative de motion de censure de gauche contre le gouvernement Valls. Donc, on était en plein déchirement de la gauche. Donc, il y avait cette idée de recoller les morceaux, de recréer des ponts entre les uns et les autres, avec autour de la personnalité du candidat naturel. Donc, ça n'est pas nécessairement le régime qui est en cause. Peut-être l'idée de candidat naturel, mais on peut remarquer d'ailleurs que dans les statuts des Républicains, vous avez peut-être pu voir ça, que le président sortant ne serait pas obligé de passer par la case primaire. Donc il y a eu une sorte de jurisprudence Hollande, en l'occurrence. Je pense que il y a une question, effectivement, François Hollande n'a certainement pas incarné l'autorité présidentielle à force de vouloir défendre cette idée de président normal. Et puis, la difficulté, effectivement, a résidé dans le fait qu'à partir de la nomination de Manuel Valls, en particulier à Matignon, il y a une partie de la majorité qui n'a plus suivi. Et ça a été de plus en plus net jusqu'à la double question de la déchéance de la nationalité. Il l'a rappelé hier, c'était un regret de sa part. Et la loi El Khomri qu'il a défendue hier, en revanche. Donc, je ne dis pas qu'il y a les deux gauches irréconciliables, comme le disait Manuel Valls, mais ça va être difficile de les réunifier dans le cadre de la primaire. Et je suis assez pessimiste en ce qui concerne Manuel Valls, qui veut aujourd'hui porter le bilan de François Hollande lors de cette primaire.
Beaucoup de commentateurs politiques parlent d'échec, en tout cas, en analysant cette décision de François Hollande de se retirer de la course à l'Élysée. L'opposition, d'ailleurs, n'est pas la seule à faire ce commentaire. Écoutez ce que l'on pouvait entendre dès hier soir, notamment sur RFI.
Ce quinquennat est un échec pour les Français, un échec pour la France, un échec pour l'Europe.
Quand il nous dit qu'il était conscient des risques, oui, il était conscient du risque de perdre. Et puis, il a bien compris que son bilan était catastrophique.
C'est une décision qui est lucide, mais c'est aussi un aveu d'échec terrible.
Je ne vais pas faire le commentaire sur la personne, c'est un énorme aveu d'échec.
Ce n'est pas l'échec d'un homme, c'est l'échec d'une politique.
Voilà, Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi avant eux, Isabelle Le Callennec et Bruno Retailleau, des soutiens de François Fillon, Valérie Debord, porte-parole des Républicains, tous répètent comme un mantra ce terme d'échec. Rémi Lefebvre, est-ce que le quinquennat, clairement, de François Hollande est un échec de votre point de vue ?
Bah écoutez, oui, c'est un échec de divers points de vue. D'abord, c'est un échec de résultats. C'est-à-dire que concrètement, le bilan au terme de 5 ans, c'est que la situation française ne s'est pas améliorée. Le chômage, même s'il a légèrement chuté, est dans une situation de chômage de masse. Et puis surtout, le bilan du point de vue de la gauche est catastrophique. C'est-à-dire que François Hollande a pris le risque de sacrifier la gauche et son camp sur l'autel d'une politique de compétitivité qui n'a absolument produit aucun effet. Et qui n'a eu pour effet que de faire exploser la gauche, de la désagréger, de contribuer à la droitisation aussi du jeu politique, parce que aujourd'hui, ma conviction profonde, c'est que si François Fillon a pu proposer un projet aussi à droite, c'est parce que François Hollande a déplacé le centre de gravité de la vie politique à droite lui-même. Voilà, donc c'est un échec, c'est incontestable, un échec de résultat, un échec symbolique pour la gauche. Moi, je suis moins attaché à la question de la symbolique présidentielle. Je pense que la question n'est pas de savoir si François Hollande était un bon président, c'est un président, est-ce qu'il allait être auteur du rôle et de la fonction. Tout à l'heure, je parlais de crise de régime, ce n'est pas un régime au sens d'institution, c'est au sens de système politique. Et aujourd'hui, le problème, vous parliez tout à l'heure de verticalité, c'est que cette verticalité n'est pas du tout adaptée à la société. Elle projette des attentes sur un président de la République qui est voué à décevoir. Et donc, je pense que, je le répète, ce qui arrive à François Hollande n'est que le symptôme d'institutions qui sont déréglées, qui sont vouées à produire de la défiance et de la délégitimation pour le personnel politique.
Eddy Fougier, pour rebondir sur ce que vient de dire Eddy Lefebvre, et pour conclure, c'est la défaite, c'est l'échec de François Hollande, président de François Hollande, l'homme, ou c'est l'effet de sa politique ?
Un peu les deux, automatiquement, de sa politique sans doute, parce que effectivement, elle n'a pas produit les résultats. Alors, quand vous avez vous donnez le sentiment de trahir un petit peu vos promesses, l'esprit du bourget pour aller vite, il faut que cette politique ait des résultats. Si elle n'a pas les résultats, effectivement, on vous met on met en balance à la fois cette trahison. Et c'est le sentiment que beaucoup à gauche ont par rapport à François Hollande et un échec en termes de résultats. Alors, est-ce que il y a un échec et que cette situation est catastrophique ? Sans doute pas. On verra peut-être à l'avenir, on va réécrire un petit peu l'histoire, mais ça sera trop tard pour lui.
On verra. Donc, en tout cas, notamment sur l'antenne des RFI, ce qu'il adviendra de ce parcours de François Hollande. Merci, Elie Fougier. Je rappelle que vous êtes politologue et chercheur associé à l'IRIS. Merci d'être venu jusqu'à nous dans ce studio. Merci également à Rémi Lefebvre, qui était en notre compagnie. Je vous rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Lille 2. Merci également à Claude Battista à la réalisation et à Florence Ponce pour son aide dans la préparation de ce débat RFI. Dans un instant, le retour de l'information.